VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. L'Assemblée nationale togolaise a adopté mercredi soir une nouvelle loi qui restreint sévèrement la liberté de manifestation publique au Togo. Officiellement, pour des raisons de sécurité, le Togo a été secoué par une importante crise politique. Entre 2017 et 2018, des dizaines de milliers de personnes sont régulièrement descendues dans les rues pour demander la démission du président Faure Gnassingbé et la limitation rétroactive du nombre de mandats présidentiels. Les manifestations étaient organisées simultanément à plusieurs endroits à Lomé et dans d'autres villes à l'intérieur du Togo. La société canadienne IAM Gold Essakane, première productrice d'or au Burkina Faso, la société française Bolloré Transport et Logistique et 12 personnes ont brièvement comparu hier devant la justice à Ouagadougou pour fraude en matière de commercialisation d'or et blanchiment de capitaux. Les précisions de Irénée Hermanoumbou.
L'audience a été renvoyée à début octobre, quelques heures après son ouverture sur demande de plusieurs parties, dont la défense et la partie civile. Vu le niveau et l'ampleur du dossier, on ne pouvait pas le retenir aujourd'hui, a rapporté l'un des avocats de IAM Gold, Essakane, maître Moumouni Kopiho. Il faut que tous les avocats puissent prendre connaissance du dossier afin de développer les moyens de défense de leurs clients, a-t-il indiqué. La société est le premier employeur du privé au Burkina Faso, avec 2500 personnes, rappelle-t-il. Outre les entreprises IAM Gold, Essakane, Bolloré Transport et Logistique, 12 personnes de deux sociétés et de l'administration publique sont poursuivies pour fraude en matière de commercialisation de l'or, faux et usage de faux, exportation illégale de déchets dangereux, blanchiment de capitaux et franchise illégale.
La justice congolaise a affirmé mercredi détenir 3 des 4 médecins congolais accusés d'être impliqués dans l'assassinat en avril d'un épidémiologiste camerounais de l'OMS dans une attaque de milice contre une équipe de lutte contre Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces médecins sont poursuivis pour terrorisme, association de malfaiteurs et sont accusés d'avoir tenu des réunions en date du 14 avril 2019 pour projeter l'assassinat du docteur Richard Mouzoko. Il s'agit des docteurs Hippolyte Sangala Kisako, Aurélien Luando Paluku et Gilbert Kasereka. Parmi ces médecins, 3 sont en détention, a déclaré le procureur, ajoutant que d'autres personnes, dont au moins une femme, sont également détenues dans cette affaire. Le 4e médecin, le docteur Mundama Witende, est hors du pays, selon un de ses confrères. Au Cameroun, les peuples autochtones veulent plus de considération et s'insurgent contre la disparition progressive de leur langue. C'est ce qui ressort d'une recherche réalisée par la société civile dans 2 régions du pays. Les résultats de cette recherche ont été présentés à Yaoundé à la veille de la Journée internationale des peuples autochtones. À Yaoundé, retrouvons notre correspondant Emmanuel Jules-Ntab.
Les recherches menées dans une 20aine de villages du Cameroun sont sans équivoque. L'identité des peuples autochtones est en voie de disparition, notamment dans les régions du sud et de l'est. Les Baka, les Bayili, les Bakula et les Bedan, des peuples autochtones de ces régions, sont concernés par la situation. Ils sont marginalisés, selon les résultats de l'étude menée par le RACOPI, le réseau Recherche Action Concertée Pygmy. Romuald Ngono, coordonnateur de la recherche.
Lorsqu'on a par exemple un litige qui oppose un autochtone et un bantou, le litige est géré à la chefferie bantou. Et là, ça pose un problème. Mais la coutume qui est appliquée dans ce cas-là est la coutume bantou. Lorsqu'il y a même un litige entre Baka et Baka, la coutume qui est appliquée est la coutume bantou et la langue qui est utilisée est la langue bantou. Du simple point de vue moral, on ne peut pas juger quelqu'un avec la langue qu'il ne parle pas.
L'accès à l'éducation est aussi l'un des griefs soulevés par les peuples autochtones du Cameroun. Ceux-ci veulent par exemple des enseignements spécifiques en leur langue. Jean Toutoumou est issu du peuple autochtone Baka et conseiller municipal dans la commune de Mintom, dans la région du sud.
Observer, réfléchir, agir. On commence la leçon en langue maternelle. Tu tiens la bouteille, tu demandes de l'aide, comment s'appelle cet objet en Baka. Quand l'enfant quitte le centre préscolaire, il va à l'école primaire, cet enfant sera le premier à donner son cahier parce qu'il a déjà travailler en deux langues, en français, en baka.
Certes, de telles méthodes d'apprentissage existent au Cameroun, mais elles ne sont pas généralisées dans toutes les écoles que fréquentent les peuples autochtones, qui se plaignent également de leur délocalisation suite au grand projet de développement. Jeanne Biloa, président de l'association Bakola, l'un des peuples autochtones du Cameroun.
Mais comme on dit que les peuples autochtones sont les premiers habitants du Cameroun, ils n'ont pas de terre. Nous étions installés en brousse. On a demandé que les peuples autochtones sortent de la forêt. Tant au village là, ce n'est pas notre terre. Donc on est obligé de s'adapter et de parler leur patois.
Une dizaine de structures gouvernementales ont assisté à la séance de restitution de la recherche, parmi lesquels le ministère de la promotion de la femme et de la famille, qui lutte contre les mariages forcés, un phénomène décrié par le peuple autochtone. Chantal Hangju, conseiller technique au ministère de la promotion de la femme et de la famille.
Par rapport au mariage, nous pensons qu'il faille encourager l'éducation non formelle. Si elles n'ont pas pu être à l'école classique, le ministère dispose des centres de promotion de la femme et de la famille qui doivent pouvoir promouvoir la formation.
Les Nations Unies ont en 2010 déclaré l'année 2019 année internationale des langues autochtones. Selon les experts, 95% des langues autochtones pourraient disparaître d'ici 2050 du fait notamment de l'éviction des peuples autochtones de leur terre d'origine. Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
Au Soudan, les généraux et les leaders du mouvement de contestation se sont fermement engagés, selon un haut responsable américain, à faire réussir la période de transition pour l'établissement d'un pouvoir civil. Eric Manirakiza.
J'achève ma visite après avoir entendu de très fortes promesses d'engagement de la part de tous les gens que j'ai rencontrés, a déclaré David Hale, numéro 3 du département d'État américain, lors d'une conférence de presse hier à Khartoum. Il a eu des entretiens avec le chef du conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan, des leaders de la contestation et des membres de la société civile. Des dirigeants militaires et meneurs de la contestation ont paraphé dimanche un accord prévoyant l'établissement d'un conseil souverain qui devra mener avec un parlement et un gouvernement la transition pendant un peu plus de 3 ans. L'accord doit être formellement signé le 17 août. Le conseil souverain doit compter 5 militaires et 6 civils qui seront désignés le 18 août, le premier ministre le 20 août et les membres du gouvernement le 28 août. Par ailleurs, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont annoncé la fourniture de 540 000 tonnes de blé au Soudan pour répondre aux besoins alimentaires de base de la population pendant 3 mois.
L'ONU a fait part de son inquiétude mercredi quant au sort de plus d'une trentaine de migrants ivoiriens, dont des femmes et des enfants, refoulés par les autorités tunisiennes vers la zone frontalière avec la Libye. Le ministère de la Défense tunisien avait fait état lundi du refoulement de dizaines de migrants, dont des Ivoiriens, vers le territoire libyen après leur entrée illégale dans le pays.
Nos infos sur voaafrique.com.
Damas rejette catégoriquement l'accord américano-turc visant à établir un centre d'opération conjointe pour le nord de la Syrie en vue de l'établissement d'une zone de sécurité dans cette région à majorité kurde, a rapporté aujourd'hui un média d'État. Damas a accusé les Kurdes syriens d'être un outil dans ce projet hostile américano-turc, affirmant que ces derniers assument une responsabilité historique à cet égard. Mercredi, la Turquie et les États-Unis ont décidé d'établir un centre d'opération conjointe pour coordonner la création d'une zone de sécurité dans le nord de la Syrie, une mesure visant à prévenir un affrontement entre forces turques et kurdes. L'Iran s'en est pris aujourd'hui au royaume de Bahreïn pour avoir accueilli une conférence provocatrice sur la sécurité maritime dans le Golfe et pour sa rhétorique anti-iranienne dans un contexte de tensions entre Téhéran et Washington dans la région. Bahreïn a accueilli le 31 juin une réunion sur la situation dans la région et a condamné les agressions répétées, les agissements inacceptables de l'Iran et des groupes terroristes qui lui sont liés contre la sécurité de la navigation dans le Golfe et le détroit d'Ormuz. Cette petite monarchie du Golfe, qui abrite la 5e flotte américaine, n'a pas précisé qui avait participé à cette réunion, mais le Guardian, quotidien britannique, a rapporté que le Royaume-Uni avait appelé à sa tenue, ainsi que d'autres pays européens et les États-Unis. Et puis pour terminer, les États-Unis ont exhorté aujourd'hui leurs ressortissants à faire preuve d'une prudence accrue lors de leur voyage à Hong Kong au moment où les manifestants pro-démocratie annonce 3 jours de manifestation à l'aéroport de la ville. L'ex-colonie britannique est en proie depuis 2 mois à une grave crise politique née de la contestation d'un projet de loi sur les extraditions vers la Chine, mais dont les revendications se sont élargies. La ville est le théâtre de manifestations parfois émaillées de heurts entre radicaux et forces de l'ordre. Des manifestations sont ainsi prévues demain vendredi à dimanche à l'aéroport de la ville. Le prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.